La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, les grandes gueules.
Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Alors, on a pris Charles Aznavour parce qu'il aurait eu 100 ans aujourd'hui, le grand Charles, et que la musique « Emmenez-moi au bout de la terre », là où la misère est moins pénible au soleil, nous semble illustrer la Nouvelle-Calédonie.
Oui, plus de 20 heures de vol pour notre président. Il a prévu de rester 24 heures sur place, peut-être un peu plus si les choses se débloquent, pour tenter de trouver une issue à ce qui se passe sur place. Alors, l'ordre n'est pas encore totalement rétabli, même si ça s'améliore. On a envoyé beaucoup de policiers et de gendarmes. On sera à 3000 policiers et gendarmes sur place. C'est énorme. Et puis Emmanuel Macron arrive avec l'idée de mettre sur place une mission qui restera, elle, plus longtemps pour tenter de trouver une issue politique. Alors, on nous dit qu'il y a 3 hauts fonctionnaires qui sont dans l'avion présidentiel avec Emmanuel Macron, des fonctionnaires qui seraient missionnés pour trouver des solutions. Il y aurait donc un profil éco-finance, un profil plus institutionnel et puis quelqu'un qui connaît très bien l'île, des technos pour sortir du conflit. Est-ce que vous croyez à ce voyage éclair d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'Emmanuel Macron va sortir l'île de cette crise?
Ou est-ce que Emmanuel Macron, c'est le pyromane pompier ou le pompier pyromane? 32-16 pour en parler avec les GG. Antoine?
Moi, je l'ai dit ici la semaine dernière, j'ai trouvé pour une fois Emmanuel Macron courageux. Il a décidé de mettre un terme à une situation d'exception sur cette île qui est aussi grande que l'Île-de-France, où 40 000 citoyens français sont privés de leur droit de vote. Moi, je pense vraiment qu'il faut sortir de cette situation d'exception et revenir dans une logique normale sur un territoire français. En revanche, je dois bien admettre qu'il a peut-être été un peu léger sur l'ordre public sur l'île. Quand on vote le texte pour revenir à la normale, il fallait se douter que la petite minorité de Kanak indépendantistes ne laisserait pas faire ça et que, soutenu et poussé par LFI, etc., ils nous mettraient des barricades, des trucs comme ça.
Donc on a manqué d'anticipation.
Le fond est bon. On a en revanche manqué d'anticipation et manqué tout simplement de force de l'ordre pour maintenir l'ordre sur un territoire français. Et donc, c'est pas nos 3 technos dans l'avion avec Emmanuel Macron qui vont régler quoi que ce soit. Je pense qu'on a besoin de force de l'ordre.
Il y en a, il y a les blindés.
Elles arrivent, mais tardivement. Tu imagines, ils ont attendu plusieurs jours, parce que forcément c'est loin, mais ils ont attendu plusieurs jours. Des citoyens français ont dû se défendre eux-mêmes. Parce que la République n'était pas en mesure de garantir leur sécurité. Heureusement qu'ils étaient armés. Sans quoi, ils auraient vu leur maison pillée, leur famille attaquée, etc., par des pillards, par des bandits. Et donc moi, je dis, très bien que le président y aille, je suis pas sûr que les 3 technos servent à grand-chose. Envoyons des forces de l'ordre, rétablissons l'ordre républicain, ne laissons plus les minorités s'imposer dans notre pays. Parce que c'est une minorité d'indépendantistes.
Donc en fait, tu es même en train de dire que le président de la République aurait dû attendre avant d'y aller, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on d'abord on rétablit l'ordre, on embastille ceux qui ont mis la pagaille, et ensuite le président y va.
Tu poses une bonne question. Combien des fauteurs de troubles ont été arrêtés?
Il y a eu 280 interpellations.
Ça me semble encore un peu léger. Voilà.
Julie, est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron? Est-ce que c'est le bon missionnaire? Est-ce que c'est ou c'est le pompier pyromane?
Pompier pyromane, oui, il faut évidemment rétablir l'ordre et la paix civile, sauf que ça passe par le dialogue politique, et ce dialogue politique est tardif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaissait la situation inflammable dans la région. Il est quand même passé en force, en brutalisation, comme souvent avec ce gouvernement. D'ailleurs, passant le dossier des mains de Matignon à celui du ministère
de l'Intérieur.
Donc, c'est une approche extrêmement sécuritaire quand même du dossier. Il faut simplement revenir à l'esprit de l'accord de Nouméa et des accords de Matignon. Ce qui n'était d'ailleurs pas qu'une position de gauche. Je rappelle que c'est Édouard Philippe également qui l'a mise en place lui-même lorsqu'il était à Matignon. Moi, je pense vraiment qu'effectivement, il a joué avec le feu ici. Et plutôt que d'entériner, je dirais, des accords locaux. C'est-à-dire que quand on écoute les locaux, La question n'est pas tant de remettre en cause un droit démocratique qui fait défaut sur le territoire, parce que c'est vrai, c'est injuste qu'il y ait une partie de la population qui ne puisse pas voter. Mais ce qu'il dit, c'est que ça doit faire partie d'un accord global. Mmh. Aujourd'hui, cet accord global, il n'est pas voté, discuté avec les locaux. Il est discuté depuis Paris. On connaissait cette situation inflammable. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui se rend en Nouvelle-Calédonie une semaine après que cette situation ait pris ce tournant-là, c'est une situation inflammable. Effectivement, je trouve ça un petit peu aberrant. Il faut absolument suspendre cette révision constitutionnelle. Il faut que, de toute façon, Macron se rende à l'évidence. À mon avis,
donc,
il va perdre.
Le préalable. Il aurait dû suspendre avant d'y aller, pour apaiser les tensions.
Oui, parce que là, de toute façon, et puis même politiquement, il a évidemment perdu la majorité au Congrès aujourd'hui avec des attitudes comme ça. Donc, il faut aussi qu'il se rende à l'évidence. Il faut assurer la paix civile et l'ordre. Voilà.
Charles.
Non, moi je pense que c'est une bonne chose qu'ils s'y rendent. Je trouve que c'est suffisamment le bordel là-bas pour justifier qu'il y aille. Je pense.
Ça donne raison à ceux qui ont mis le bordel, du coup.
Je ne sais pas si on peut vraiment. Oui, peut-être un peu, mais je ne sais pas si c'était du niveau du président de la République. Je pense qu'il aurait pu envoyer le jeune Attal, qui me paraissait peut-être plus...
Alors, il ira, mais après les élections européennes.
Oui, mais ça ne sert plus à rien après les élections européennes. Moi, je pense que c'était davantage du niveau du Premier ministre que de celui du Président de la République, dont on imagine qu'il a quand même beaucoup de choses sur le feu en ce moment et qu'il ne peut pas faire... C'est quoi, 23 heures d'avion, je crois, pour aller
à Nouméa.
Oui, mais...
Il
désacralise sa propre autorité en faisant des trucs comme ça.
Il l'a fait avec les gilets jaunes, il l'a fait avec les agriculteurs. À chaque fois, il se présente comme étant le seul capable de régler les crises. Qui parfois provoque lui-même, effectivement.
Inch'Allah, comme on dit maintenant. Mais moi, j'espère que ça va marcher.
Est-ce qu'il doit retirer cette réforme constitutionnelle?
Alors,
j'entendais les indépendantistes dire très bien, il arrive sur place, mais s'il arrive sur place, c'est pour nous dire on arrête la réforme.
Ce que disait Julie, c'est même
on arrête la réforme pour en discuter parce que sinon, dans le cadre d'un accord global.
Sinon, les violences vont continuer. La nuit était encore un peu agitée.
Là où je comprends sa logique, c'est que. Il a pris conscience qu'il n'avait plus la majorité pour faire voter cette réforme au Congrès. La crise faisait que voilà. Et donc, au lieu d'envoyer quelqu'un qui n'aura pas les mêmes marges de manœuvre de négociation que lui, lui qui est un peu le stade ultime de la négociation, qui est celui qui de toute façon décide à la fin, bah, il y va lui-même, comme ça il peut lui-même discuter avec les interlocuteurs sur place, et s'il y a des concessions à leur faire, il est celui qui est en position de les faire. Donc moi je prends le pari qu'il y aura des concessions, c'est le pari que je prends, on verra.
Je pense
qu'il va faire des concessions, et je pense que tout ça va être reporté au calende grec, parce que visiblement là, la situation n'est pas mûre.
On va céder. On a mis pour 1 milliard de dégâts en Nouvelle-Calédonie. Ça fait déplacer le président de la République qui, d'après Charles Consigne, tu prends le pari qu'il va faire des concessions. Donc ça va donner raison à tous ceux qui ont fracassé la moitié de la Nouvelle-Calédonie.
Comment tu veux faire autrement?
Ils
sont extrêmement minoritaires. C'est ça, Julie, quand je t'entends, je suis étonné. C'est-à-dire que sur un corps électoral où une partie ne vote pas, les derniers référendums donnent quand même plus de 80% favorables au maintien dans la République, au maintien dans la France et au retour à une vie normale.
C'est pas ça le cœur de leur revendication.
Et donc, en réalité, là, on est en train de faire le jeu des minoritaires. Et moi, je dis que la Nouvelle-Calédonie, ça paraît loin. En réalité, c'est un territoire français grand comme l'Île-de-France. Et que demain, on peut imaginer les Corses, on peut imaginer les Bretons, mais on peut aussi imaginer les habitants de Seine-Saint-Denis qui considèrent qu'ils doivent avoir des lois différentes et qu'ils vont tout casser jusqu'à ce que le président vienne pour...
Je
termine.
Essaye de rester dans la rationalité.
Je pense que c'est un séparatisme. Nous assistons là à des gens qui ont une volonté séparatiste.
Je pense que tu n'as simplement pas...
Si on cède sur un séparatisme, on cédera sur tous les autres. Et donc, ne cédons pas sur celui-là, parce qu'il y a tous les autres qui arrivent.
D'une part, ce n'est pas le Kosovo, et surtout, ce n'est pas le cœur de leurs revendications. Encore une fois, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont... Non, ce qu'ils demandent, c'est que ce soit renégocié dans le cadre d'un accord global.
On a déjà fait 3 référendums.
Oui, en vrai, ils demandent un truc. On va revenir indéfiniment au même point. C'est qu'à la fin, il va falloir
perdre dans les élections, dans les urnes.
C'est typiquement le genre de réforme quand même qui tombe sous le sens et qu'il faudra faire. J'imagine que vous l'avez déjà dit ici, mais entendre des gens de gauche.
Tu sais qu'on dit tout ici. Hein.
J'entendais hier, je ne sais plus qui c'était, qui disait oui, vous rendez compte, ils vont être mis en minorité dans leur propre terre. Enfin, un discours entre guillemets racialiste,
identitaire,
une approche identitaire par quelqu'un de gauche. Alors, j'imagine que vous avez déjà débriefé abondamment, mais c'est très drôle.
Ils sont pour le droit du sang là-bas et le droit du sol
exactement.
Chez nous.
Exactement.
Chez nous, en métropole.
Ils constatent le grand remplacement là-bas, mais oulala. Alors, par contre, ça n'existe nulle part ailleurs.
Néanmoins, je reviendrai sur l'idée parce que Charles, il dit de toute manière, il va falloir concéder des choses.
C'est un problème de méthode en l'occurrence.
Oui, mais pardon. Une fois de plus, on va donner, et à tort ou à raison, l'image d'un pays qui, dès qu'il y a de la casse, de la violence, eh bien recule.
Et je dis pas
non, il y a de la casse et de la violence en réponse à une brutalisation politique.
Ça a été le cas avec les gilets jaunes.
Mais oui, mais pourquoi les gilets jaunes?
Oui,
ça ne justifie rien, mais c'est toujours la même méthode.
Écoute, moi je suis un partisan de la fermeté totale en politique, mais il y a un moment où c'est le mur de la réalité. Et mais typiquement, alors, les gilets jaunes...
C'est toujours face à la violence.
Les gilets jaunes, on était quand même...
Et
les
bonnets rouges avant. Parce qu'on a un gouvernement qui n'écoute pas des revendications démocratiques.
On était au bord des revendications démocratiques.
Là, on est au bord de la guerre civile.
Là, on est dans la guerre civile.
Donc, à chaque fois, Non, mais je dis pas que... Peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution. À mon avis, il n'y a pas d'autre solution que de céder. Donc, il va céder, même s'il va peut-être s'habiller, mais il va quand même pour dire que, finalement, ce projet de loi n'aura pas lieu. Mais néanmoins...
Ils avaient 18 mois pour en discuter. Ils ne se sont même pas rendus sur place pour en discuter avec les locaux. Le Conseil constitutionnel...
Le Conseil
d'État leur avait laissé 18 mois.
Oui, mais apparemment, il a beaucoup menti.
Darmanin, on voit bien son approche brutale.
Quand on fait l'examen, mais ils mentent tous, il y en a un, je vous dirai pas lequel, au gouvernement, qui parfois m'envoie des textos pour me pour contredire des choses que je dis à l'antenne en disant c'est pas vrai, tu as tort, tu te trompes, etc. Et quand je vérifie, je vois que cette personne me ment. Donc c'est un gouvernement très très menteur.
Moi, il y a personne du gouvernement qui
m'écoute. Mais ils ont quand même, quand on fait l'archéologie de la crise, on constate que beaucoup de voix expertes du dossier, les ont alertés sur la situation. Depuis plusieurs mois, leur disaient « Attention, c'est en train de mal se passer, c'est mal reçu, etc. » Et ils n'ont pas écouté.
La
donc
méthode n'est pas la bonne.
Ils sont quand même un peu co-responsables.
Mais comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes,
on va écouter Michael. Bonjour Michael.
Bonjour.
Bienvenue au 3216, monsieur Michael Dillet-Vilaine. Vous avez de la famille, vous, en Nouvelle-Calédonie, justement, qui vous tient au courant de la situation. Alors, est-ce que le président va arriver en sauveur de ce qui se passe là-bas, Michael, selon vous?
Déjà, il faut qu'il arrive, c'est déjà pas mal. En sauveur, je pense pas, parce que je pense que ça, il va essayer de mélanger la chèvre et le chou. Mais après, la Calédonie, c'est un territoire particulier. C'est vrai que c'est multiethnique. Dans l'ensemble, ça s'entend bien, mais par rapport à... Bon, ça a bougé par rapport à ce qu'ils voulaient voter au niveau du gouvernement. Mais comme ma sœur me dit, en 25 ans qu'elle est là-bas, elle est infirmière, il y a plus de gens qui partent qui ne restent. Elle est arrivée en 98, donc elle a pas le droit de voter. Mmh. Après, ce serait pour faire voter les gens qui sont nés en Calédonie, si j'ai bien compris, et qui étaient pas en Calédonie. Mais comme elle me dit, c'est pas parce qu'il y aura peut-être 5 000 ou 10 000 personnes qui vont arriver à voter s'ils devaient passer leur loi, qu'ils vont changer les donnes. Hein, parce que la Calédonie est tellement loin qu'il y a pas tant de personnes que ça qui arrivent. Les gens qui arrivent, les médecins, les infirmières restent 2-3 ans. Ils partent avec ce qui s'est passé, comme elle m'a dit, ça va être dur.
Elle envisage de partir, votre sœur, elle ?
Non, elle n'a pas envie de partir pour l'instant parce qu'elle a sa famille de cœur qui est là-bas et qu'elle a envie de rester. Mais comme elle me dit, là, ça va être très dur de remonter parce que, bon, ben le mal est fait. Alors, il va falloir, ça va reprendre quelques temps pour le bien vivre ensemble. Mmh. Et après, on parle des indépendantistes. Il y a des, par rapport à ce qu'ils veulent faire. Mais la plupart des jeunes qui ont cassé, brûlé, pillé, ils ont même pas de parti politique. Indépendantistes, oui et non, ils savent même pas parce qu'ils sont un peu paumés. Il y a quand même pas mal de chômage, il y a quand même pas mal de soucis. Par contre, les gens qui ont perdu les 3/4 de la ville qui ont été cramés au niveau des commerces, même s'ils sont remboursés, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont rentrer en France et ils vont en métropole, je veux dire, et qui vont laisser tomber. Donc, ça va être dur de reconstruire, ça va mettre du temps, quoi.
Mais on voit que c'est pas terminé puisque à l'instant, le haut commissaire sur place annonce que 3 policiers ont été grièvement blessés. Il y a eu un cambriolage, une armurerie. Ils sont hospitalisés. Donc Emmanuel Macron arrive quand même dans un contexte qui n'est pas complètement.
Et vous parliez
du. Vous vous savez, moi j'ai vécu en Calédonie quand j'étais plus jeune, mon père était gendarme, dans les années 80. À l'époque déjà, il y avait des gendarmes qui s'étaient fait tuer. Donc là, c'est un éternel recommencement. En 88, il y a eu la même chose.
Ouais.
Après, ils ont réussi à trouver des solutions politiques, etc. Ils ont réussi avec la mine de nickel au nord aussi pour donner aux Kanaks, pour qu'ils travaillent et tout, parce que le problème, il est aussi du travail. Maintenant, il faudrait peut-être qu'aussi le gouvernement trouve des solutions pour que le nickel se vende, c'est pas évident.
Hein, mais, parce que le prix s'est effondré,
c'est
là.
C'est des territoires qui sont tellement loin, qu'il n'y a pas assez de tourisme pour vivre, que, en fait, c'est compliqué, quoi, à faire vivre. Ils sont pas beaucoup. Ils sont 300 000 personnes, à peu près. Et, c'est vrai que, pour le travail, pour tout, c'est un peu compliqué.
Michael,
trouver des solutions, c'est pas toujours évident.
On verra justement ce que dit Emmanuel Macron avec sa mission, s'ils avancent des pistes, des solutions. Vous parliez du chômage sur place, Michael, il est à 14-15% de la population là.
Et 18%. C'est curieux d'ailleurs de savoir combien la métropole envoie en termes de financement, d'allocation, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire, mais que pensent beaucoup de
Français. Eh bien, on va continuer d'en discuter.
C'est un peu d'être saoulé d'envoyer beaucoup de pognon à des territoires qui en retour ne manient que l'hostilité.
Nouvelle-Calédonie, est-ce que le président de la République, c'est le pompier pyromane, il arrive sur place dans les prochaines heures. 32-16 pour venir continuer d'en discuter avec les GG. Je remercie Michael d'avoir été avec nous. A tout de suite au 32-16.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. 3 GG avec nous, avec vous aujourd'hui. Charles Consigny, avocat, la juriste Julie Martinez et puis le conseiller en entreprise Antoine Diers. On discute, on parle de la Nouvelle-Calédonie, du voyage du président de la République. Il va arriver sur place dans les prochaines heures, Emmanuel Macron. La situation est toujours très tendue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à regarder la note. Les dégâts devraient se chiffrer à 1 milliard, on parle 1 milliard d'euros de dégâts.
C'est déjà ce qu'on a dû dépenser l'été dernier avec les émeutes. C'est-à-dire que désormais, quasiment chaque année, on a des émeutes à 1 milliard. Là aussi, ça pose la question quand même de ce pays qui part en feu, enfin, quand même régulièrement.
Ou du gouvernement qui ne comprend pas qu'il vaut mieux investir dans le dialogue politique que de payer 1 milliard lorsqu'il est en train de
totalisation. Moi, j'investis dans les armes pour les flics. C'est beaucoup plus efficace que le dialogue politique.
Non mais Julie, d'accord, peut-être que le gouvernement a sa part de responsabilité, mais ces éruptions de violence...
Il a sa grosse part de responsabilité, surtout dans un dossier comme celui-ci, ou même les émeutes l'année dernière. Excuse-moi, mais quand tu rentres encore une fois en force avec cette brutalisation, au lieu de passer par du dialogue politique, effectivement, tu récoltes...
Mais non, mais...
On est sur un sujet qui est en réalité extérieur à notre débat. C'est la logique des coloniales et de l'influence étrangère qui vise à déstabiliser une partie du territoire français.
Ah oui, il y a de l'ingérence étrangère, je suis d'accord.
Et donc, pardon, mais on aurait beau faire tous les débats du monde avec des représentants d'un supposé peuple kanak, etc., ils ne seraient pas d'accord. Parce qu'ils sont abreuvés par cette logique portée par LFI, poussée par des forces étrangères, qu'il y aurait une espèce de racisme latent dans leur situation, alors que la France leur a tout donné.
Donc tu abandonnes le dialogue politique en pensant que
tu n'as plus des gens rationnels face à toi.
D'accord.
Mais non, ils ne sont pas rationnels. Et ceux qui sont sur les barrages, c'est plutôt des jeunes désœuvrés, etc. Et quand on voit les résultats des
référendums... Pourquoi sont-ils désœuvrés ? Pourquoi sont-ils laissés eux-mêmes ?
Attends.
Quelle est la force à gagner sur place ?
Quand on voit les résultats des référendums, 80% de volonté de rester en France sur un corps électoral réduit, ça veut dire que même une majorité de Kanaks vote pour rester en France. Et donc on est en train de se faire manipuler par une petite minorité, elle-même manipulée par l'étranger et par le discours des coloniales. Donc il n'y a pas
Quel est notre contre-discours sur place dans ce cas ? C'est bien beau d'envoyer le gouvernement et le président de la République une fois qu'il y a des soucis, mais sont-ils là au moment où on peut encore parler ?
C'est une démonstration d'amour de la France tous les jours vers la Nouvelle-Calédonie.
On
envoie de l'argent
en juillet l'année dernière.
Tout le temps. On ne les abandonne pas. Voilà.
Qu'est-ce qu'il doit faire Macron ? Parce que revenons à ce voyage. Est-ce que c'est quand même pas risqué ? Parce qu'il va arriver sur place. Bon, il va essayer de rencontrer des élus déjà. Est-ce qu'il y a des élus qui vont peut-être boycotter les rencontres ?
Les élus ont l'air quand même.
Et ensuite, ça dépend. La maire de Nouméa, elle est Renaissance, mais est-ce que est-ce qu'elle va pouvoir rencontrer ses adversaires? Et puis derrière, si les violences continuent, s'il dit pas les choses très clairement, ce qui peut être, parce que il est pas toujours très clair, est-ce que ça peut pas faire pchit cette histoire? Il repartirait finalement avec une situation qui resterait bloquée.
Il reste un seulement. J'aimerais savoir combien Mitterrand était resté. Il faudrait regarder. Je pense pas qu'il était resté juste une seule journée. C'est un peu court. Ça me paraît un peu rapide.
À mon avis, il peut rester plus longtemps s'il voit que les choses se débloquent.
Mmh. Julien est avec nous. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bienvenue, Julien. Bonjour. Est-ce que vous pensez que le président de la République peut jouer les pompiers et éteindre l'incendie politique civil là-bas, alors?
Je ne sais pas. Moi, je pense que déjà, il faudrait qu'il dégage Sonia Backès et certains dirigeants politiques qui jettent de l'huile sur le feu en permanence depuis des années. Et après, moi, j'ai de la famille à La Réunion, à la Guadeloupe et à Tahiti. Et ce que je vois en Nouvelle-Calédonie, pour moi, ça peut aussi se produire dans d'autres départements et territoires d'outre-mer.
Ce que je disais tout à l'heure.
Mmh, exactement.
Pourquoi ?
Parce que le problème, c'est que... C'est qu'on ne veut pas le voir, on ne veut pas le dire, mais il y a quand même... Là, ils veulent rester dans la France. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros système social, il y a tout ça. Parce que les populations autochtones, bien souvent, elles font partie de la population la plus pauvre de ces îles, de ces départements, de ces territoires. Et ils sont relégués à ça, et dans la jeunesse, c'est en train de monter. Et donc, et ça peut péter à tout moment sur d'autres territoires.
Alors, ça veut dire quoi, Julien ? Ça veut dire qu'on doit lâcher les Outre-mer, alors ?
Est-ce qu'on a l'argent? Déjà, on est endetté 3 000 milliards d'euros. On a le deuxième espace maritime mondial. Oui, on n'a plus l'argent d'assumer tout ce territoire.
Ce sont des citoyens français.
Moi, je pense honnêtement que c'est ça. On a déjà du mal à faire régner l'ordre dans notre pays. On le dit tous les jours. Et vous pensez qu'à 3 000, 4 000, 8 000, 14 000 ou 8 000 kilomètres, on peut y arriver?
Julie?
Mais enfin, si j'entends un peu l'argumentation, c'est parce que ces régions-là sont paupérisées qu'on doit les lâcher. Mais est-ce qu'on laisse la région désindustrialisée dans l'Est parce que le taux de chômage est plus élevé? Non. Enfin, je veux dire, c'est quand même des concitoyens français.
Ou alors, la deuxième solution, c'est qu'il y a un meilleur partage des ressources.
Mais ça, j'aimerais bien avoir les chiffres, justement. C'était une question intéressante de Charles. Quelle est la part envoyée là-bas? Enfin, je veux dire, il y a peut-être aussi beaucoup de fantasmes.
Oui, d'accord, mais...
C'est des concitoyens français.
Les Kanaks sont au gouvernement local. Ça a été négocié, voilà. Tout ça.
Ils gèrent le nickel, aussi.
Ils gèrent aussi le nickel, dont le cours, malheureusement, s'est effondré. Après, qu'est-ce que tu discutes avec l'UCT et avec le CCAT, puisque c'est eux qui ont mis la jeunesse sur les barrages. Moi, je veux bien que le président de la République, on remet tout le monde autour de la table, il y a des médiateurs, mais il y a des gens avec qui tu peux pas forcément discuter. C'était comme quand tu avais une frange qui était ultra radicale en Corse. Finalement, en Corse, ils ont mis les nationalistes politiques raisonnés, raisonnables au pouvoir et qui discutent avec la nation française, avec le continent. Là, tu as des gens, il va falloir trouver les esprits les plus raisonnables pour continuer de discuter avec eux, pour avoir des perspectives, mais tu en as une partie qui ne voudront jamais discuter. Alors moi, je sais pas pourquoi est-ce qu'on doit se mettre autour de la table avec ces gens-là ou pas, quoi.
Voilà, il faut pas. Alors dans ce cas, il faut pas céder.
C'est pour ça que je m'interroge sur le bien fondé de la mission aujourd'hui du président de la République.
Mais le président va céder, moi je vous le dis, parce que c'est dans l'ordre des choses. Et l'histoire politique de la France ces dernières années nous montre que dès qu'il y a eu de la violence, de la casse, et une situation qu'on n'arrivait pas à maîtriser, politiquement, on a cédé.
Non, la réforme des retraites, il est passé quand même en force. Non, la réforme des retraites...
La réforme des retraites, elle a été complètement remaniée. La réforme, puis regarde, quelques années après, deux ans après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un régime spécial de nouveau pour la SNCF, tu vois. Donc finalement, Julien, restez avec nous.
Les minorités bloquantes.
Pour écouter Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Parce que comme Julien, vous êtes dans l'Hérault. Vous avez votre fille qui habite là-bas depuis combien d'années en Nouvelle-Calédonie?
Et ça va faire 16 ans. Elle est partie à l'âge de 30 ans. Elle va avoir 46 ans.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que le président de la République peut apaiser la situation là-bas, alors?
Il faudra qu'il cède. Il faudra qu'il cède parce que, je veux dire, ils sont quand même très, très remontés. Le mot est faible. Ils brûlent tout, quoi. Je veux dire, c'est plus
possible. Dans ce cas-là, il faut céder face aux gens violents.
C'est pas céder aux gens violents, c'est une révolte qui gronde depuis des années, qui est sous cloche, que tout le monde connaît et que on essaie de masquer. Et cette révolte, elle est là. Et...
C'est là où je suis ennuyée, je suis d'accord avec vous, madame. C'est-à-dire que c'est quand même une révolte qui gronde. On sait que la situation est inflammable. Elle a été gérée de la même façon par les derniers premiers ministres. Et puis là, on se réveille en apprenant que, oups, ah oui, effectivement, il y a des révoltes sur place lorsqu'on entre en force et de manière aussi brutale. J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de méthode avec ce gouvernement qui a passé sous silence une révolte, effectivement, vous avez raison, qui est là depuis des années. C'est un sujet quand même, ou alors ils ne maîtrisent pas leur dossier.
Catherine, quels sont les symptômes justement de cette colère qui vous dites qui montait, Catherine?
Pas de travail. Il y a beaucoup d'errance, surtout par rapport aux jeunes. Vous voyez les jeunes qui sont encore très marqués par leurs idées plutôt façon de vivre.
Et pourquoi elle s'est installée là-bas, votre fille, en Nouvelle-Calédonie? Parce qu'elle est venue de métropole, j'imagine, en fait, c'est ça?
Oui, elle a fait ses études de journalisme à Paris. Enfin, non, elle est prof maintenant, elle a changé de... Elle était journaliste indépendante.
Et pourquoi elle s'est installée là-bas, alors?
Par amour de l'île. En plus, j'avais des amis qui avaient habité là-bas, qui sont partis en 88 suite aux émeutes et qui l'ont, on va pas dire, forcé la main, bien sûr que non.
Mais ce que je voudrais comprendre, du coup, Catherine, là-bas, elle vit au milieu de la population, complètement intégrée, ou au contraire dans des quartiers où se retrouvent ou dans des quartiers plutôt privilégiés où se retrouvent les gens qui viennent de métropole.
Elle habite à la baie des Citrons, qui est un quartier comme un peu huppé où il y a toutes les boîtes de nuit. Enfin, c'est l'endroit où les gens s'amusent, etc.
Mais les gens s'amusent. Entre eux. C'est vraiment mêlé avec le reste de la population, dites-moi.
Non, c'est pas mêlé.
Ça l'a été pendant longtemps et ça l'est moins.
Non, ça
l'est. Il y a une bonne partie de la population est métisse, hein, quand même, là-bas, il ne faut pas l'oublier. Hein.
Oui, elle est métisse, mais je veux dire, les Kanaks, les Kanaks qu'on voit à l'écran, etc., ceux-là, vous ne les voyez pas. Hein. Vous les voyez dans les supermarchés, vous les voyez errer, vous les voyez... il y en a qui viennent des îles d'à côté. Bon, il y a beaucoup aussi de ceux qui travaillent, hein, qui sont là, toutes les caissières, femmes de ménage, etc. C'est les Kanaks, hein, qui font ce travail, c'est pas les Français. Hein. Nous, les Français, enfin...
Les métropolitains.
Voilà, les métros, pardon, eux ont des places plus hautes dans la sphère. Hein. Les petits métiers sont donnés en priorité aux Kanaks. Et ça a été dit pendant les années 88. Hein.
Moi, ça me gêne un petit peu comme discours parce que ça sous-entend que ce serait figé et que la société serait comme ça, que les Kanaks feraient les petits métiers, comme vous avez dit. Ouais. Je pense que la France a permis à nombre de Kanaks de s'élever. Bien sûr qu'il reste aujourd'hui des Kanaks.
Il y a plein de Kanaks dans les écoles. Ma fille est prof, ils sont adorables. Adorables. Elle n'a jamais eu un souci. Hein.
Non mais, attention, Catherine n'a pas alimenté le discours de certains Kanaks qui disent que la France est mauvaise pour eux parce que regardez, soit on n'a pas de travail, soit on est dans les petits métiers. Je suis persuadé, sans avoir jamais été là-bas, qu'un certain nombre de Kanaks ont pu s'élever et ont pu atteindre des positions socialement tout à fait favorables.
Oui.
Et je rappelle que les Blancs, pour parler de manière très crue, ne représentent que 25% de la population en Nouvelle-Calédonie. Donc ce n'est pas une opposition ethnique. Il y a aussi beaucoup de Wallisiens, beaucoup de Métis, etc. C'est pas partagé entre Blancs et pas Blancs, et les Blancs vivraient mieux.
Non, mais vous voyez, Catherine, pour répondre, parce que vous disiez il y a un problème aussi de caste dans la population presque, mais pour répondre à ce que tu disais,
Charles, pas de caste.
Bah, c'est un peu ce que disait Catherine vis-à-vis de sa fille,
et c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est que c'est pas
quand même un peu entre
c'est-à-dire
eux.
Que celui qui bosse, il peut s'en sortir, c'est pareil partout. La République, elle donne sa chance à tous, et précisément si ce territoire n'était pas français, il s'en sortirait moins bien. Donc vraiment, attention à pas alimenter un discours décolonial comme ça qui sous-entendrait que nous maintenons une partie de la population autochtone volontairement dans une situation socialement défavorable. C'est faux.
Pour répondre à Charles et à sa demande, merci à Julien et à Catherine d'avoir été avec nous, les dépenses publiques en Nouvelle-Calédonie, c'est 1,5 milliard d'euros, ça fait 20%. En fait, du produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, 20%, un cinquième.
Je suis pas sûr que ce soit la même part pour tous les départements français.
Clairement. Le taux de chômage qui est à 15%, le chômage des jeunes est à 15-25%. Le chômage des 15-25 ans est à 36% en Nouvelle-Calédonie. Voilà, les un tiers des 15-25 ans n'ont pas d'emploi.
À 15 ans, t'es censé être à l'école.
En Nouvelle-Calédonie. Tu as le système d'apprentissage aussi. Dans un instant, suite des GG, suite des grandes gueules avec le on s'en fout pas, mais on a posé la question sur les réseaux sociaux à propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le pompier pyromane Emmanuel Macron, oui ou non? C'est clair et net. À 83,5%. C'est-à-dire, vous ne comptez pas sur le chef de l'État pour rétablir ou apaiser
Il peut être le pompier.
La situation
de pyromane.
En tout cas, il est surtout cramé, là.